démarre cette deuxième heure sur Buzz Radio dans Bubu On Air avec ce super morceau de Syntax Pride.
It's made up of lonely moments. There was always a moment there when I knew. You always gave installments. Always knew you concentrated and grew. And I believe in reinvention. Do you believe that life is holding the clue? Take away all the lonely moments. Give me full communication with you.
Shine a little light. Give up on your pride.
C'était Syntax Pride sur Buzz Radio.
On Air, présenté par Bubu.
Buzz Radio, juste pour vous.
And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go,
where you gonna sleep tonight? I tell you everything I know, any little thing I know.
La chronique de Dimi.
La chronique de Dimi, aujourd'hui dans Bubu On Air. Nous attendons un super groupe qui va nous rejoindre d'ici peu. Ils s'appellent Joseph, ils ont un EP, ça s'appelle No Place Like Home. Et ils aiment pas mal de trucs, comme les Kim Crimson, comme Genesis, la période Peter Gabriel, le Chicago Blues 50s, les Neil Young, Jack White et les Radiohead. Voilà, donc Dimi a décidé de nous faire une superbe chronique sur Genesis pour la peine.
Oui, alors, Genesis est un groupe britannique de rock considéré comme un des pionniers du genre progressif qui a connu un succès important à partir des années 70, culminant dans les décennies des années 80 et 90. Alors, il y avait Peter Gabriel, puis Phil Collins. Après le départ du premier en 1975, ils ont été les figures emblématiques du groupe. Tous deux, ainsi que Mike Rutherford avec son groupe Mike and the Mechanics, ont également connu un grand succès international en tant qu'artiste.
Fin des années 80. Hein.
Oui, tout à fait. Mike and the Mechanics, c'était vraiment très très bien. Alors, il faut savoir que Genesis, en général, a vendu plus de 150 millions d'albums de par le monde. Genesis se classe donc dans les 30 artistes et groupes ayant vendu le plus d'albums de tous les temps.
Juste après nous.
Ah, j'aimerais bien. Alors, le groupe est formé en 1967 par de jeunes étudiants du collège de Charterhouse, situé au sud-ouest de Londres.
Voilà, comme quoi, on rappelle, faites des études, c'est bon, être un grand groupe et vendre beaucoup d'albums.
Éventuellement. Alors, c'est issu au départ de deux jeunes groupes distincts. Peter Gabriel au chant et Tony Banks au piano étaient originaires de Garden Wall, avec Chris Stewart à la batterie. Ils ont été rejoints par Michael Rutherford et Anthony Phillips du groupe Anon, un diminutif de Anonymous, alors qu'ils étaient étudiants à Charterhouse. Peter Gabriel jouera de la batterie pour deux groupes, The Spoken Word et The Millards, mais sans grand succès. Et c'est à cette époque-là qu'il écrira avec Tony leur première chanson ensemble, She's Beautiful, qui deviendra The Serpent sur le premier album. Donc, She's Beautiful deviendra The Serpent.
The Serpent.
Voilà. Genesis enregistre en 1969 From Genesis to Revelation à la suite d'un accord conclu avec Jonathan King, compositeur et producteur, lui aussi ancien élève de Charterhouse et qui jouit à cette époque du succès de son 45 tours. Everyone's Gone to the Moon.
Bon, explique aux jeunes ce qu'est un 45 tours.
C'est le single d'aujourd'hui, en fait. Hein. C'était un truc en vinyle, tu vois, petit. Avec un gros trou au milieu. Et qui faisait 45 tours à la minute pour pouvoir écouter le son qui en sortait. Alors, King trouve le nom du groupe et leur fait enregistrer une série de chansons reflétant le style pop, un peu des Bee Gees qu'il affectionnait particulièrement. Gabriel et Banks sont pour leur part plutôt influencés par les Beatles. King rassemble le tout sur une sorte de concept album en ajoutant des arrangements de violon, etc.
Un mashup des années 70.
Voilà, exactement. Et ce fut un échec commercial complet. Mais surtout par manque de communication, le disque se retrouve classé en musique religieuse chez certains disquaires. Le nom du groupe signifiant bien la Genèse et le titre de l'album de la Genèse à la Révélation. Et la Révélation, c'est l'autre nom de l'Apocalypse, en fait. Mais ça a entretenu la confusion. Le groupe se sent manipulé par King, choisit de rompre son contrat avec lui. Par la suite, King tentera de profiter au mieux de ses droits sur ses seuls titres de Genesis à travers de multiples rééditions. Alors, libérés de cet engagement, les membres de Genesis jouent la musique qu'ils veulent et signent avec le nouveau label Charisma Records. Anthony Phillips quitte le groupe toutefois en 1970, après la sortie de Trespass, en raison de désaccords sur la direction musicale du groupe. de problèmes de santé et d'excès de trac sur scène. Tu sais, quand on traque très fort, ben, on est censé prendre des choses qui te calment un peu.
Oui.
À cette époque-là, c'était des fameux trucs, en tout cas. Alors, le départ de ce membre fondateur est un traumatisme pour Banks et Rutherford. Le groupe s'interroge un temps sur son avenir sans lui. Finalement, chacun renouvelle son engagement. Mais le batteur John Mayhew fait les frais de cette reprise en main et est jugé techniquement trop faible pour les ambitions musicales du groupe et il disparaît de la formation. Mais il y a un petit jeune qui va débarquer dans le groupe à ce moment-là, en 1970. Mais ce petit jeune s'appelle Phil Collins. Qui répond bien à une annonce passée par Genesis dans le journal Melody Maker. Et le groupe est à la recherche d'un batteur qui est sensible à la guitare à 12 cordes. Il se voit convié à passer une audition dans la maison de Peter Gabriel. Selon certains documentaires traitant de cette audition, Collins s'est choisi car, contrairement aux autres prétendants, il n'essaye pas d'impressionner les membres du groupe par sa technique. Pendant que les premiers batteurs auditionnent, il a fait quelques longueurs de piscine tout en écoutant les morceaux. Hein, tu vois, très, très relax, très cool, très sûr de lui. Pour sa part, il avouera en entretien qu'il a juste eu à se relaxer dans la piscine en écoutant les autres, retenant ainsi les morceaux à jouer. Hein, c'était beaucoup plus facile pour lui.
C'est sûr.
Alors, voilà. Collins fait preuve d'une tranquillité à toute épreuve à la batterie, qu'il pratique depuis l'âge de 5 ans. Phil s'est rendu à cette audition avec le guitariste de son ancien groupe The Flaming Youth, Ronnie Carroll, car Genesis n'avait toujours pas de remplaçant pour Phillips. Mais si le guitariste passa l'audition, ben, il ne fut pas retenu. Il avait un style un peu trop bluesy qui ne correspondait pas à
cette
Genesis,
époque 70s. Voilà. Hein,
oui, ouais, tout à fait. Alors Peter Gabriel appelle ensuite Steve Hackett, à la lecture d'une annonce aussi vue dans Melody Maker. Il recherche des musiciens décidés à s'émanciper des formes musicales en place. Il faut voir, Genesis en 1970, c'est des tarés, hein. C'est des tarés, faut voir les déguisements de Peter Gabriel, c'est l'époque de Roxy Music aussi, ils sont vraiment starbés, c'est vraiment...
Roxy Music, je n'ai qu'un souvenir, c'est leur superbe pochette.
mais moi c'est leur superbe costume des années 70, ils sont travestis, ils ont des perruques, c'est
tu te serais bien plu dans cette époque,
ben,
moi je savais rien avec une perruque.
J'étais un peu, surtout maintenant j'ai plus beaucoup de cheveux. Alors donc il était allé à la recherche de musiciens décidés à s'émanciper des formes musicales en place et il est enthousiasmé par un concert du groupe auquel il est invité. Il impressionne par son sérieux et sa technique. Steve Hackett rentre dans Genesis pour l'album Nursery Crime en 1971, contenant notamment The Musical Box, qui avait déjà été développé à l'époque d'Anthony Phillips, et The Fountain of Salmacis. On va écouter un premier morceau de Genesis.
C'est une très bonne idée.
C'est pas la première période de Cam Joseph, mais bon, c'est un morceau de 1983 qui s'appelle Mama.
Yeah. Inside you care.
beside me.
Genesis, vraiment super bon, bon souvenir.
Oui, de 1983.
C'est excellent.
La merci chronique Dimi.
Et ça continue.
Et ça continue encore et encore, comme dirait l'autre. En 1972, sort l'album Foxtrot, suivi d'un album désormais classique de Genesis en 73 qui s'appelle Selling England by the Pound. Et puis bah, arrive la grosse catastrophe en 1975, donc le départ de Peter Gabriel. Après la tournée du concept album The Lamb Lies Down on Broadway, paru en 1974, il se sent de plus en plus rejeté par le groupe et son mariage, ainsi que la naissance de son premier enfant, n'ont fait qu'ajouter à son inconfort personnel. Il a bien failli ne jamais voir sa fille, car les premières semaines qui ont suivi sa naissance, elle était entre la vie et la mort, et cette période fut très éprouvante pour lui et sa femme, Jill. Les autres membres écrivent pratiquement toutes les musiques de ce double album sans la participation de Peter Gabriel, qui se charge de son côté de concevoir l'histoire et la totalité des paroles. Hackett se sent par ailleurs à l'étroit et sort son premier album solo, Voyage to the Acolyte, en 75, auquel participent Mike Rutherford et Phil Collins. Peter Gabriel écrit seul de son côté l'histoire et les paroles tenant lieu du fil conducteur de l'album. Le premier album de solo de Peter Gabriel sort en 1977 et inclut un titre que tout le monde connaît aussi, qui s'appelle Salisbury Hills, excellent, une allégorie de son départ du groupe et de la période sombre qui l'a précédé. Il faut savoir que tous les membres en fait se sont quittés, mais sans vraiment se quitter, parce que Phil Collins a joué de la batterie sur l'album Salisbury Hills de Peter Gabriel, et vice versa, ils continue à collaborer malgré tout. Alors après avoir entendu plusieurs prétendants au poste de chanteur principal, nous avons eu énormément d'excentriques à cause de Peter et de ses accoutrements, déclarera Rutherford au sujet d'un entretien. Mais finalement, Genesis se tourne vers Phil Collins, qui officiait déjà au chant sur les chœurs et en seconde voix, hein, les chansons For Absent Friends, For More Fool Me, etc. Donc, ce sera Phil Collins qui deviendra le chanteur du groupe.
Lead vocal.
Ouais. Alors, en 1977, Steve Hackett quitte le groupe aussi. Mike Rutherford se concentre sur les guitares et le groupe devient alors un trio. Sort en 1978 le fameux album And Then There Were Three, avec un morceau qui a marqué aussi, c'est Follow You, Follow Me.
Tout à fait.
Hein? Et au milieu des années 80, oui,
ça me replonge vraiment loin.
En 1981, sort l'album Abacab.
Grand souvenir, grand succès aussi. Évidemment, voilà. Ça a rempli les bourses.
Ça, c'est le début de la mondialisation du groupe Genesis, qui devient vraiment un groupe marquant des années 80. Suivront donc 2 ans plus tard l'album Genesis, dont on a écouté un extrait là tout de suite, Mama. Et en 1986, Invisible Touch, qui deviendra multi-album d'or, etc. Finalement, Phil Collins quittera aussi le groupe en 97. Il reviendra en 2007. Et puis, les soucis de santé lui feront normalement arrêter la musique, puisqu'il devient malheureusement sourd, comme Brian Johnson des CDC. Voilà. Ça, c'était la période Genesis. On va encore écouter justement un morceau chanté par Monsieur Phil Collins, I Can Dance.
C'était excellent, la vidéo était très bonne, le clip sympa.
Oui, tout à fait.
On refait la danse.
Ouais.
Allez, c'est parti. Mm-hmm. ça va, t'as pas trop perdu, tu sais toujours danser, hein?
Ouais, ça va.
I Can Dance Genesis, c'était la chronique de Dimi.
Chronique fleuve, pour faire une chronique complète sur Genesis, il faudrait une émission complète.
Ouais, c'est sûr, mais c'était déjà très très bien. Merci Dimi. C'est parti pour la suite. Radio, just for you. There's no place like home. Sitting there all alone. Back in your mother's home. But I'm so far away from home. I don't wanna grow. Stay a little child. The pride of my daddy's eyes. Ben justement, on vient de se l'écouter, c'était Joseph.
Oui.
Excellent. C'était quel titre ?
Ben, la plage titulaire, No Place Like Home.
No Place Like Home. Et on va les retrouver directement après ceci. Voici Oscar and the Wolf. vient de s'écouter Oscar and the Wolf.
Oui, un groupe belge. Hein.
Ouais, super bon. Et alors, ils sont arrivés, ils sont là, ils sont dans la place. No Place Like Home, c'est le nom de l'album. Et c'est le groupe Joseph. Dis-nous-en un peu plus, Dimi.
Ben, Joseph est un duo guitare, batterie et voix bruxellois. Leur influence prennent résolument racine dans cette période bouillonnante, créative et mystique que sont les années 70. Ils écrivent leur musique en assemblant des séquences de riffs de guitare et d'ambiance psychédélique, issues de longues heures de jam. Les parties vocales viennent ensuite avec une volonté mélodique et émotionnelle, peut-être à cause de leur amour inconditionnel pour l'œuvre des Beatles. On en reconnaît quelques-uns hein, qui
tout à
aiment
fait.
Les Beatles et que ça, à qui ça a influencé énormément. Alors les textes sont là pour la plupart du temps surréalistes, cela donne aux chansons un côté pop psychédélique et progressif.
Ce qu'on aime.
Voilà, hein, les influences, ben, ils aiment King Crimson, on en a parlé, Genesis, on a fait une chronique sur eux, le Chicago Blues des années 50, Neil Young, Jack White, Radiohead, enfin, que du bon quoi.
Que du bon, ils sont là dans le studio, bonjour.
Bonjour.
Allez, ça faut va parler bien devant les sucettes.
Oui, n'ayez pas peur, elle n'attaque pas.
Voilà, ouais, tu peux l'amener promis. À toi.
Alors, bah, avant de démarrer, hein, donc, moi ce que je vais vous demander, c'est tout simplement de nous raconter un peu votre parcours de la naissance jusqu'à aujourd'hui.
On est deux parce qu'en fait, on jouait dans un autre groupe où on était trois. Dans une configuration différente, et puis le groupe s'est terminé, on s'est retrouvé à deux, et on n'avait qu'une seule certitude, c'est qu'on voulait faire quelque chose, et du rock, et la seule configuration à deux pour faire du rock, c'est guitare-batterie, a priori, et on a pris celui de nous deux qui jouait le mieux la guitare, c'est-à-dire Yannick.
Merci.
On lui a donné la guitare, et puis on n'avait pas de batteur, donc moi je me suis mis à la batterie, Et on a commencé comme ça, dans un local où il y avait une batterie.
Et avant ça, tu faisais déjà de la batterie ?
Non, donc j'ai commencé la batterie pour ça. Et ça a donné un côté un peu brut à la musique dès le début.
Et tu faisais quoi comme instrument ? Tu jouais quoi ?
Au départ, j'étais bassiste avant.
Bassiste, ok.
Ouais, donc la ligne de rythmique, tu la connaissais quand même déjà un peu donc.
Oui.
Même s'il n'y a rien de comparatif entre la basse et la batterie, mais enfin, bon, c'est la base rythmique.
Il y a du commun. Avant, je faisais partie de la section rythmique et maintenant, je suis la section rythmique.
Alors, vous entendez en arrière-son
des gazouillis.
Oui, ce sont les fans de Joseph qui sont dans le studio. Ce sont sûrement les premiers fans, non ?
Oui.
Voilà.
Y en a un des deux qui n'était pas né quand on a commencé à jouer, donc il a été baigné dedans dès le début.
Mais ça va, ils aiment ? Ils sont déjà très rock.
Il y a certaines chansons où ils réagissent bien, donc c'est intéressant de voir ce qui marche avec eux, ce qui ne marche pas avec eux.
Alors vos influences, on a parlé de King Crimson, on a parlé de Genesis, on a parlé de Radiohead, et vous nous avez annoncé aussi Jack White. Alors perso, moi je le connaissais grâce à son duo avec Alicia Keys pour le thème de James Bond, donc Another Way to Die, aussi dans le groupe de raconteurs. Et surtout dans White Stripe, le duo rock de Détroit formé en 1997 et composé de Jack White au chant et à la guitare et au piano, ainsi que l'écriture de Mick White à la batterie. Alors au chant et au piano aussi. Alors le groupe s'est séparé le 2 février 2011, s'affichant comme...
Triste date, la date de la fin de White Stripe.
Tout à fait.
J'étais triste ce jour-là, je me souviens.
Alors, s'affichant comme frère et sœur, mais en réalité, ils étaient ex-époux, mariés depuis 1996, divorcés 2 ans plus tard, mais ils sont restés trop bons amis. Ils ont sorti leur premier album, The White Stripe, en 1999, puis Staves en 2000. Leur son garage rock les a rendus très populaires à partir de 2002, mais c'est avec leur album suivant, Elephant, en 2003, qu'ils marquent leur consécration populaire. Le titre Seven Nation Army est emblématique de cet album où la guitare de Jack laisse moins de place à la batterie de Meg. Mais allez-y, parlez-nous de Jack White. Pourquoi lui ?
Alors, moi j'allais dire justement, on a cherché longtemps parce que donc Jack et Meg White, tout le mythe qu'ils font autour de sont-ils frères et sœurs ? Sont-ils
on les entend
époux,
là derrière.
Sont-ils, ben voilà. C'est assez fabuleux et assez génial d'un point de vue de la communication, de la point de vue du mythe dans l'histoire du rock, quoi. Et donc avec Joseph, on cherchait des trucs comme ça, mais on n'a pas osé dire qu'on était ni frère ni sœur ni marié. Mais peut-être qu'on va trouver un jour quelque chose.
Ouais, si vous étiez un trio, c'était Jésus, Marie et Joseph.
Ça aurait été sympa.
Pas bête, pas bête. Mais sinon, oui, absolument, c'est une influence évidente.
Plus dans ce style-ci, justement.
Ah oui. Oui, donc, ce qui est génial, c'est que c'est un groupe qui a été, je trouve, assez fidèle à tout ce qu'il a présenté depuis le début. Il voulait un côté très, très roots, très influencé par le Delta Blues, etc. Et je pense que Jack White est toujours resté dans cette lignée-là, même s'il a modernisé il a porté, on va dire, sa touche personnelle, évidemment. Mais et pour ça, je trouve qu'il y a une espèce de vénération de lui envers cette musique qui est le blues, etc. Et qui est tout à fait chouette, quoi.
Et psychédélique aussi de temps en temps,
oui,
et très
fait.
Rock, hein.
Ouais.
Alors évidemment, pendant 2 ans, il a aussi géré un autre groupe, Les Raconteurs, celui-là, qui est aussi assez différent. C'est un homme qui touche vraiment à tout, et c'est un peu grâce à vous que je l'ai découvert, parce que je me suis intéressé quand j'ai reçu, je veux dire, votre mail en me disant, tiens, on aime Jack White. Je me dis, tiens, moi, mis à part ça et ça, je connais pas grand chose de ce chanteur, et j'ai vraiment découvert un grand artiste.
Alors moi, l'album qui me fascine le plus, c'est vraiment le tout premier album des White Stripes, qui s'appelle The White Stripes d'ailleurs.
Ouais.
Où vraiment on sent qu'ils sont juste deux, il n'y a pas de traficotage, ils jouent, et ça a été enregistré très vite, et ça devait être une période assez intense pour eux, et je trouve que le son qui ressort de là est vraiment magique, quoi.
Alors moi, ce que je propose, c'est de s'écouter justement un morceau qui m'a vraiment touché et conquis lors de mon écoute et de ma recherche sur Jack White. C'est celui-là, c'est Lazaretto. And Putain, ça c'est tout bon.
C'est excellent.
Bon choix, bon choix. Et je comprends évidemment ce côté qu'on retrouve dans votre album justement. No Place Like Home. Alors vous parliez aussi des Chicago Blues. Donc j'ai trouvé ça dans notre placard en disant tiens, je vais le mettre comme petit tapis et on va pouvoir discutailler là-dessus. Influence blues vraiment?
Oui, en tout cas pour la, moi la guitare. Enfin, je fais partie d'un groupe avant qui s'appelait le Ugly Blues Band où voilà c'était harmonica, guitare et basse et on arpentait comme ça. C'était à l'époque où je vivais en Amérique centrale. C'était il y a quelques années d'ici. Et on arpentait comme ça les villes d'Amérique centrale en jouant du blues. Et ça parlait assez bien aux gens là-bas qui connaissaient finalement pas tellement le blues. Parce que bon voilà, ici, c'était au Guatemala principalement.
Ouais, ils sont plutôt habitués aux mariachis.
C'est plutôt les mariachis, les marimbas et les choses comme ça. Et nous on arrivait avec... on était en costard, on jouait du blues un peu à l'ancienne, on se mettait vraiment dans ce délire-là. Et en faisant ça, bah, j'ai beaucoup écouté justement le Delta Blues, le Chicago Blues, et je me suis vraiment plongé dedans et j'ai trouvé vraiment beaucoup de choses magnifiques.
C'est vrai que c'est un son qui nous a toujours plu, et d'ailleurs, on rêve de faire la Route 66 un jour avec.
Oui, ou la Route du Blues. Hein,
oui, la Route du Blues. Aussi. Avec ouais. Toute cette
avant
musique.
Avant qu'on soit trop vieux.
Hein. Alors, ça va, on a encore un siècle devant nous.
Ouais,
alors, Joseph, vous êtes évidemment, on vous retrouve partout, on vous retrouve sur Facebook, donc ça, c'est la page. Joseph Build a House.
Build a House.
Ouais. Voilà. On vous retrouve aussi sur Twitter, ouais. Joseph Band.
Ouais.
Sur iTunes, évidemment. Donc, ouais, toutes les personnes
Spotify,
qui veulent télécharger.
Ouais.
Donc, allez-y sur les plateformes de téléchargement Lego, pardon. et alors, Amazon et Spotify, mmh. Deezer, comme tu disais. Ouais. L'album est sorti.
Oui, il y a un an, enfin un peu plus d'un an maintenant, c'était un EP, donc il y avait 6 titres. Et là, on vient de sortir du studio, on a réenregistré des morceaux en plus au Spector Studio à Bruxelles, à Saint-Gilles. Donc le Spector Studio, c'est un studio qui est assez, assez super parce que tout se fait, on essaie vraiment de tout faire, on va dire, dans un esprit très 70s avec du matériel que les gars de là-bas réparent et remettent à jour et on peut vraiment l'utiliser. Ça donne un son, une texture vraiment aux enregistrements, donc j'invite tous les groupes à tester le Spector Studio, bien évidemment, qui est très chouette. Et donc, avec ces nouveaux morceaux, on pense sortir du coup un album complet, un LP cette fois-ci,
ouais.
Qui suivra donc l'EP qui est sorti l'année passée.
Moi j'ai une question, qu'on n'a pas encore posée.
Aïe.
Et je me demandais à Benoît de répondre. Pourquoi Joseph?
Ah, ça c'est une grosse question.
Oui, parce qu'en fait, pour les gens qui vont taper ça simplement sur YouTube, par exemple, bah, ils vont trouver un trio de nanas aux États-Unis.
Ouais, Joseph the Band, malheureusement.
Voilà.
Quand on tape ça, on tombe sur un trio de nanas.
Ouais, ou même toute une série d'artistes qui s'appellent Joseph.
Oui,
Joseph,
bien sûr. Mais pourquoi avoir choisi ça, Joseph?
Bah, c'est venu d'un hasard, en fait. Donc, c'est presque pas un choix réfléchi, dans le sens où... on a commencé à jouer ensemble et puis on s'est mis un peu à déconner sur qu'est-ce que ça pourrait être notre nom et tout. Et on a vraiment bien aimé l'idée d'un prénom,
ouais,
pour un groupe, parce que ça donne un côté mystérieux. On ne sait pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un chanteur? Est-ce qu'on parle d'un groupe? Et Joseph, c'était à la fois vieillot et en même temps actuel. Ça peut aussi faire référence au blues. Ça peut faire référence à cette époque-là. Donc à un moment donné, on est tombé sur ce prénom par hasard et on s'est dit...
C'était une évidence.
Pourquoi pas? Et puis on est parti là-dessus. Et bon, il y a pas mal d'anecdotes marrantes à ce sujet-là. On est une fois arrivé à un concert et moi j'arrive avec ma batterie et je dis voilà, je suis le batteur de Joseph. Comme j'aurais pu dire, je suis le batteur d'un tel groupe. Et donc le type qui fait le son, il attend. Puis Yannick arrive, il dit moi je suis le chanteur de Joseph. Et puis on attend, et puis il se passe rien. Et puis le type nous dit
Il est où Joseph?
Il arrive quand?
Et donc,
Joseph?
On est là, on est prêt. Ah bah allez-y alors. Et donc, et voilà, on a commencé le check comme ça, quoi.
Alors justement, en parlant concert, en parlant scène, vous en faites régulièrement?
Ben oui, ici on sort d'une période de studio donc un peu plus calme, on commence à refaire des concerts, notamment à Jean Blou, à la fête de la musique, moi je vais à Jean Blou.
18 juin.
Ouais, c'est le 18 juin.
On joue dans la région de Moucron le 28 mai, un petit festival local. On est en train de chercher des dates, d'accumuler des dates. D'ailleurs, si à Charleroi, il y a moyen de jouer, si dans la région, des gens nous entendent et ont des possibilités.
Voilà, n'hésitez pas, envoyez-nous vos demandes, on vous met directement en contact avec le groupe.
Oui. Vous nous envoyez ça en message privé sur Bubu On Air
sur Buzz Radio.
Vous pouvez envoyer un mail aussi au contact de Buzz Radio, hein, buzzradio.be.
Voilà, tout à fait. Alors, qui écrit les paroles et qui compose la musique?
Nous.
Tout ensemble.
Donc on fait quasi tout ensemble, vraiment. Donc dans nos répétitions, comme tu l'as dit tout à l'heure, on jam pas mal. Et hors de cette jam, en général, on tombe sur un riff ou l'autre qu'on trouve vraiment intéressant. Puis donc ça vient de nous deux à ce moment-là, et on le retravaille, on construit le morceau à partir de ça. Et puis après, ben, on rajoute par la suite, on va dire, les paroles, la ligne de chant. Au début, je psalmodie un peu, je fais un peu n'importe quoi, et puis petit à petit, ça devient des paroles. En fait, c'est intéressant de s'atteler au son que font les paroles, et puis après leur donner du sens, quoi. Se dire, tiens, là, j'ai envie de faire why, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on connaît qui finit par why? Et puis finalement, on arrive à créer des petits univers dans chaque morceau qui sont chouettes, quoi.
Anglophone à la base, bon, tu as traversé les États-Unis, donc enfin une partie.
Non, les États-Unis, non, l'Amérique centrale, mais vraiment, okay. L'Amérique centrale.
Panama.
Au sens Guatemala, Salvador, Mexique, des
trucs. Ton nom est aussi dans la liste.
Voilà. Aïe, aïe, aïe.
Et oui, Joseph est découvert.
C'était pas pour les mêmes raisons.
la question, pourquoi chanter en anglais?
Oui. Bon, je dirais que c'est une question d'influence principale. Je pense que depuis qu'on est tout petit, quand on était tout petit, peut-être on écoutait des trucs de chansons françaises, mais quand on a commencé à s'intéresser à la musique, au rock, forcément, le rock, c'est quand même principalement en anglais que ça se passe. Et ça permet aussi de s'évader différemment. Je trouve qu'il y a un côté planant dans le fait de chanter en anglais.
Est-ce que ça vous a ouvert des frontières déjà?
Ouvert des frontières. Oui, dans le sens où on est passé à la radio dans pas mal d'émissions en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne aussi.
Génial. Ce soir, on vous écoute, enfin là-bas c'est le jour, on vous écoute à Dallas déjà, donc ça c'est déjà une bonne chose. Oui, on a une auditrice fidèle qui nous envoie de temps en temps des petits messages elle vit là depuis quelques années et elle nous écoute et elle fait découvrir l'émission Bubu On Air là-bas.
Excellent.
Texan.
Voilà. Bonjour madame.
Voilà. Donc c'est le groupe Joseph à faire connaître. D'ailleurs, on va passer directement un super morceau, 2000 Meters High. Donc quelque chose à dire sur ce morceau avant qu'on le passe?
Ça parle d'un gros trip, voilà.
Voilà, bah, faites-vous plaisir. From arena, light.
try the night fly, we will try the night fly. 2,000 meters high, won't leave a super dry. I won't leave a super dry.
Meter high, qu'est-ce qui est aussi haut?
L'imagination.
L'imagination. On va s'écouter un King Crimson. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est vous qui l'avez choisi. Voici Epitaph.
Tomorrow I'll be crying. Yes. time.